Bonsoir. Nous sommes tous pétris de croyances limitantes. Et le web n'y fait pas exception, je crois. Quand on s'est lancé dans notre expérience, les premières choses qu'on nous a dit, ça marchera pas, pour moi c'est pas possible, moi le web j'y comprends rien, on ne peut pas organiser une entreprise de cette façon-là. Bon, des croyances limitantes. Écoutez l'histoire de Sébastien. Alors qui est Sébastien? Sébastien, c'est un ouvrier qui travaille chez nous. Il a 35 ans, il est marié, il a 3 enfants. C'est pas tout à fait un ouvrier, c'est un ouvrier plus, il est agent de maîtrise. En fait, il a passé une dizaine d'années chez nous, et puis à un moment donné, il a passé des tests, des CQPM dans la métallurgie, et il est devenu agent de maîtrise. Alors ça a été un peu difficile, il a dû s'y prendre à 2 fois, parce qu'effectivement, dans les tests, il faut écrire un peu, il y a des PowerPoint à faire. Il n'a pas pu le faire la première fois, mais finalement, il a réussi. Sébastien est donc ouvrier, il gagne net 1 600 € par mois, 3 enfants et une femme qui ne travaille pas. Ça veut dire qu'une fois qu'il a payé sa voiture, sa maison, son canapé, l'électricité, le téléphone, et ainsi de suite, il lui reste 250 € pour aller jusqu'à la fin du mois, pour nourrir ses enfants et sa famille. Évidemment, dans des conditions comme celle-ci, il n'y a pas grand-chose qui soit possible. Donc, il a un hobby de subsistance. Effectivement, il anime de temps en temps, le samedi soir, des soirées, et ça lui procure un petit revenu, et ça met un peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Mais Sébastien est curieux et un jour il s'est formé. Il s'est formé au web. Alors au web d'une façon large. Il a découvert Google, il a découvert les blogs, il a découvert les flux RSS, ce qui lui a permis de se rencarder un peu sur les aspects juridiques de son activité clandestine. Enfin clandestine, en tout cas pas déclarée. Il s'est rencardé sur l'auto-entrepreneur et en quelques semaines, presque du jour au lendemain, Sébastien est passé de la condition d'ouvrier où rien n'est possible, au statut d'entrepreneur. Et oui, aujourd'hui, son calendrier, en tout cas tous ses week-ends, jusqu'à la fin de l'année 2010, jusqu'au réveillon, sont bookés, et il va pouvoir faire du chiffre d'affaires grâce à Internet, grâce à son hobby de subsistance, qu'il a finalement un petit peu industrialisé, grâce au web. Maintenant, c'est plus 200 ou 250 €, il a triplé son niveau de vie. Enfin, en tout cas, ça lui permet de vivre avec 700 ou 800 euros disponibles. Ce n'est pas son revenu qui a triplé, c'est son revenu disponible. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de changer de perspective, de changer le mental. Je vous propose d'articuler mon intervention autour de 4 points. Le premier, je vais déjà situer l'entreprise, que vous sachiez de qui il retourne, parce que nous, on n'est pas Danone, on est bien obligé de se présenter. Et je vous ferai part des quelques difficultés que nous avons eues, mon frère et moi, quand on a repris l'entreprise. Le deuxième point, je vous parlerai de l'approche systémique, parce que du coup, comme on a eu beaucoup de problèmes, on s'est calé sur une approche systémique de l'entreprise. Dans un troisième point, je ferai part d'une rencontre et de la genèse du projet. Et enfin, je ferai le point de ce que, aujourd'hui, compte tenu de l'expérience qu'on a, on peut dire aujourd'hui, il est vraisemblable que le web agit, en tout cas dans notre entreprise, comme un catalyseur des changements. Alors, nous situer, qui sommes-nous? Bien, Lipi, c'est une société familiale industrielle de 300 personnes située en Charente et qui conçoit et fabrique des systèmes de clôture pour sécuriser les personnes, les biens, les infrastructures. Donc ça va de la sécurisation de vos enfants ou de vos petits-enfants autour de la piscine, jusqu'aux sites industriels, agricoles, logistiques, et puis après les infrastructures type Stade de France, prison, port, aéroport, gare et frontières. Voilà ce que l'on fait en Charente. 300 personnes, je vous ai dit tout à l'heure, pour un chiffre d'affaires en 2008, 56 millions, en 2009, beaucoup moins, 45 millions. Et d'ailleurs, je me demande si on peut faire une corrélation entre l'expérience web et la baisse du chiffre d'affaires. J'espère pas. En tout cas, j'ai bon espoir qu'on reparte dans une croissance. Pas tout de suite. Il y a 7 ans, mon frère est rentré le premier dans l'entreprise. Et puis, je l'ai suivi 2 ans après, puisque évidemment, dans notre famille, on a eu beaucoup le choix. On a eu le choix de nos études, on a eu le choix des langues qu'il fallait apprendre, on a eu le choix de faire nos expériences, et puis on a eu le choix de rentrer dans l'entreprise. C'est un très bon choix. En tout cas, j'y trouve beaucoup de satisfaction. Quand on a repris l'entreprise, on a fait beaucoup d'expériences avec mon frère. La première expérience notoire, c'est qu'on a remplacé le système d'information par un ERP. Et on a failli faire mourir la boîte, une première fois. Après, on a renversé les flux. C'est-à-dire qu'au lieu de fabriquer des stocks, on a commencé à fabriquer des commandes. Dans le flux industriel, c'est quelque chose qui est assez compliqué, tellement compliqué qu'on a failli faire mourir la boîte, une deuxième fois, en 2 ans. Puis est arrivée les crises successives de l'acier. Alors nous, on achète des fils de fer et des tubes, et puis on revend des portails et des grillages. Donc quand le prix de l'acier double en 2 ou 3 mois et que 50 ou 60% de la part matière dans le PR, c'est problématique. Donc là, une troisième fois, on a failli mourir, parce que du jour au lendemain, on avait perdu tous nos marchés export à cause de ces choses-là. Comme on avait beaucoup de succès dans les décisions qu'on prenait, évidemment, on a subi les démissions des cadres. On a failli encore faire mourir la boîte une autre fois. Puis comme ça marchait visiblement pas, on manquait d'expérience avec mon frère, on a commencé à réfléchir un petit peu plus longuement. Et puis on a adopté une vision un petit peu différente du mode de fonctionnement de l'entreprise. Et d'arrêter d'essayer de régler ou de serrer un boulon d'un côté parce que ça en desserrait un autre de l'autre côté. Et on a adopté une approche système. Alors, il faut qu'on ait des ambitions à plus long terme, qu'on y aille plus doucement, mais qu'on y aille tous ensemble. Alors, l'approche système, elle s'est résumée assez simplement. C'est 4 ambitions. Une ambition pour nos clients, et c'est la première, de s'assurer qu'on construit bien, on nourrit bien une relation de confiance et proximité avec nos clients. Alors, ça passe par la qualité de service, ça passe par du processus de vente, et puis ça passe par Internet. La deuxième ambition, c'est une ambition sur les processus. On a voulu être exemplaire dans notre profession, et maîtriser parfaitement nos processus, qu'ils soient des processus qualité, des processus sécurité ou des processus environnement. C'est finalement la structure des entreprises socialement responsables, pour utiliser des termes à la mode. Cette deuxième ambition, par contre, là, on a eu du succès, puisqu'on a été, au bout d'un an et demi, triple certifié. Donc, on fonctionne sous environnement normé ISO 9001, ISO 14001 et ILO 2001 pour la version du Bureau international du travail. Donc ça, c'est le premier vrai succès, finalement. Et je pense que fonctionner sous un environnement normé, c'est un succès et c'est tout à fait complémentaire des organisations déstructurées 2.0. Notre troisième ambition, c'est évidemment une ambition économique, parce que tout ça n'a de sens que si on gagne de l'argent et si on rémunère mieux et nos salariés et les actionnaires. Les actionnaires, ils sont peu nombreux. Mais enfin, bon, ils aimeraient bien avoir une rémunération de leur capital investi un petit peu meilleure que ce qu'elle est. Vous savez que la maladie des boîtes familiales, c'est qu'elles ne rémunèrent pas le capital investi. Bah, nous, on va essayer de les rémunérer. Et enfin, c'est un point aussi très important, et c'est notre quatrième ambition. C'est une ambition sociale qui dit que l'entreprise, elle se développera si nos salariés, individuellement, ils arrivent à se développer. Ils arrivent à améliorer leurs compétences et être plus confortables dans leur travail. Alors, comment on s'y est pris ? Sur cet aspect social, il y a beaucoup de choses qui sont sur l'équité de traitement dans l'entreprise. Donc ça, c'est le processus RH pur. Et puis après, il y a de la formation. Et on a investi de plus en plus de fonds dans la formation. 1,8% en 2006, 2,17% en 2007, 3,43% en 2008, 10,99% de la masse salariale investie en formation en 2009, c'était l'année dernière. L'obligation légale est à 0,8. 0,8 plus le DIF. Ça, ce sont nos 4 ambitions et elles fonctionnent. Ensemble, elles s'alimentent les unes les autres pour arriver à un modèle d'entreprise frugal, déconcentré, productif, efficace. J'en viens à la troisième partie et à une rencontre tout à fait singulière et à la genèse du projet. Dans les expériences qu'on avait faites, il y en a qui ont failli faire mourir notre entreprise et puis il y en a d'autres qui sont passés quasiment inaperçus. On a fait, pour ceux qui connaissent, une tentative de marketing qui s'appelle les stratégies Océan Bleu. Ça n'a rien donné, sauf un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, je l'ai mis dans ma poche, je l'ai perdu, je l'ai retrouvé 6 mois après, et puis j'ai appelé. C'est un monsieur qui s'appelle Francis Sansebert. Je l'ai appelé, je lui ai dit, pareil que vous êtes spécialiste d'Internet, ça tombe bien, moi je voudrais revoir ma stratégie Internet. Est-ce que vous pouvez venir me voir ? Bon, le monsieur est curieux, il vient me voir. Je décale un peu mon agenda. Fort heureusement, je ne mets rien après son passage, parce qu'il est bavard. Il est bavard à tel point qu'il est arrivé à 2h30, il est parti à 9h le soir. Mais entre-temps, le scope de son intervention avait évidemment changé. Je l'avais questionné sur les stratégies Internet, c'est-à-dire pour les stratégies de site web en gros, et la conclusion c'était il n'y a pas de stratégie Internet sans culture Internet dans l'entreprise. Et c'est là que commence finalement notre projet. Le constat est le suivant, et je crois que Christophe vous en avait parlé tout à l'heure, en tout cas en creux, il se trouve qu'aujourd'hui, et c'est vraisemblablement la première fois, l'entreprise, en tout cas, n'est pas un facteur de progrès dans les technologies. Si on reprend 20 ans en arrière, on ne pouvait s'acheter d'ordinateur quasiment que si on était une entreprise, ça valait 40 000 francs la pièce. Aujourd'hui, un ordinateur, c'est tout à fait accessible. Je crois que maintenant, on peut en avoir à 300 euros avec tous les logiciels. La grande majorité des logiciels sont gratuits, ainsi de suite. Mais dans l'entreprise, on est effectivement resté sur des systèmes qui sont cloisonnés et vous pouvez faire aujourd'hui beaucoup plus avec les logiciels libres, les réseaux sociaux, ainsi de suite. Vous pouvez faire beaucoup plus en dehors de l'entreprise qu'à l'intérieur de l'entreprise. Et je crois que là, on arrive à un phénomène de blocage où quand on rentre dans l'entreprise, il y a un recul des pratiques. Donc, quand on fait ce constat-là, on dit, comment est-ce qu'on peut utiliser cette puissance de l'Internet dans l'entreprise? Et pour paraphraser Serge qui est ici, comment on s'y prend? Il faut s'y prendre de plusieurs façons, sachant qu'il va falloir modifier quasiment en même temps la culture, les outils et la structure. Alors, les outils, c'est les outils du web. C'est Twitter, c'est comment est-ce qu'on utilise Twitter, les réseaux sociaux dans l'entreprise, comment on utilise SketchUp, Google Wave. C'est pas très fonctionnel, mais on essaye en tout cas d'utiliser Google Wave. Ça, c'est pour les outils. Pour la culture, comment on fait? On injecte massivement de la formation. Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure que notre formation Internet, c'est en gros un tiers de nos efforts. Les deux autres tiers sont sur le métier et sur les méthodologies d'amélioration continue type Toyota Production System. Donc les compétences, on injecte massivement de la formation. Donc on crée dans notre entreprise une web school. Organiser une web school, c'est au lieu d'avoir des salles de réunion, on met des ordinateurs, on les laisse ouvertes, sauf la nuit on les ferme, sinon les ordinateurs ils disparaissent. Et on demande, il n'y a rien de coercitif, hein. C'est-à-dire qu'on demande aux uns et aux autres, on fait de la pub, on mouille sa chemise pour aller faire comprendre à nos ouvriers, à nos administratifs, à nos cadres, là, c'est difficile pour les cadres, qu'on peut avoir un intérêt à utiliser des technologies web. Et on l'a vendu de cette façon-là. C'est-à-dire, venez apprendre ce que vous pourrez faire chez vous. Comment on a financé ça, vous allez me dire? Parce que financer des trucs pour chez soi, c'est pas très... On dit, de toute façon, comme on a déjà payé le DIF, on va faire en sorte et vous n'irez qu'en DIF. Et ce qui nous a permis, effectivement, de déstocker, puisqu' on était un peu comme tout le monde, c'est-à-dire au bout de 4 ans, au bout de 5 ans, on avait déjà 100 heures de DIF pour tout le monde, 300 personnes, voilà. Et on n'avait rien déstocké. Donc on a mis en place cette web school accessible uniquement sur le DIF, sur le droit individuel à la formation. On a déstocké 6500 heures en un an pour 300 personnes, donc ça veut dire la production finalement d'une année. Et puis après on a rajouté des plans exceptionnels avec des financements pour atteindre 13 000 heures de formation l'année dernière pour 300 personnes. C'est considérable. Une fois que vous avez acquis toutes ces compétences, il reste un problème. C'est comment est-ce que vous mettez en œuvre les compétences si vous ne changez pas la structure? Si vous avez toujours le même chef qui vous dit comment il faut faire, ça devient problématique. Eh bien, nous, quand on a donné finalement le pouvoir aux opérateurs et aux administratifs, eh bien, ça a grincé des dents et on a une partie de l'encadrement qui s'est délitée petit à petit. Et on a pris le parti de ne pas remplacer. Je vous fais une confidence, ça marche ni mieux ni moins bien. C'est pas vrai, ça marche un petit peu mieux. C'est sur le compte de résultats qu'on s'en rend compte. Parce qu'évidemment, on a moins de coûts. Donc on a essayé de faire fonctionner ces trois choses en même temps, c'est-à-dire injecter des nouveaux outils, injecter beaucoup de formation et s'assurer que la structure permettait petit à petit de mettre en place ces nouvelles compétences. Et finalement, c'est ce qui est arrivé. Et moi, je considère aujourd'hui que le web, en tout cas que notre expérience web, ça a été un catalyseur de nos changements. Joël de René, j'écoutais il y a quelques semaines sur une conférence TED, je ne sais pas si vous connaissez TED.com, il explique que dans un milieu, quand la densité augmente, c'est un truc très connu des biologistes, quand la densité d'un milieu augmente, eh bien, il naît des nouvelles propriétés. Et c'est ce qu'il disait du web, quand la densité des connexions entre les uns et les autres augmente, eh bien, il naît une conscience. Alors, chez nous, il n'est pas une conscience, mais il naît des modes de fonctionnement spontanés, des modes projet spontanés. Alors, si je peux prendre un exemple. Nous, on fabrique des produits qui ont des dimensions tout à fait hors standard. On ne livre pas sur Palette Europe. C'est-à-dire on a des grandes caisses, des plus petites caisses, des trucs longs, des trucs hauts. Et donc, on a une problématique pour mettre dans les containers. Quand on livre du grillage, il se peut que si on n'organise pas bien le container, eh ben, on livre que du vent. Donc, il y a une problématique de transport. On peut livrer nos produits beaucoup moins loin. Donc ça, c'est la problématique qu'ont les ouvriers du chargement, la logistique. Et ils ont découvert Google SketchUp. C'est un petit outil... un logiciel gratuit qui permet de visualiser en 3D, de faire des dessins en 3D. Et évidemment, ça marche comme une communauté. Donc, Il y a beaucoup de gens qui utilisent Google SketchUp et ils laissent ce qu'ils dessinent dans des bibliothèques accessibles à tous. Alors, ceux qui sont très friands de ça sont les architectes d'intérieur. Donc, ils mettent tous les meubles qu'ils designent, ils les laissent en libre service. Comme ça, quand il y a un autre architecte d'intérieur qui veut utiliser les mêmes plans, eh bien, il peut les réutiliser correctement. Donc, on a fait cette découverte-là. Par bonheur, les containers étaient déjà dessinés. Il ne restait plus qu'à dessiner nos boîtes à nous. On a fait quelques essais comme ça, et c'est les opérateurs de la logistique qui l'ont fait. Et puis à un moment donné, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des communications qui se font, qui ne sont pas des communications hiérarchiques. L'export s'est rendu compte qu'il pouvait tirer profit de cette avancée qui avait été faite dans l'entreprise. Ben comment ? Ben en faisant passer un chargement pas correct, mettons à 30 000 euros, si on fait du Google SketchUp et qu'on positionne correctement nos boîtes dans le container, on passe d'un container à 30 000 euros à un container à 50 000 euros. Donc d'un coup d'un seul, pratiquement, on a divisé le prix du transport par deux. Mais le prix du transport par deux, pour nous, c'est 2000 km de rayon supplémentaire. Et donc là, ça prend déjà une tournure tout à fait différente. Donc c'est plus un petit logiciel ou une utilisation d'un logiciel libre qui se fait dans un coin à la logistique, mais ça devient vraiment un vrai projet d'entreprise où il y a un appel à projet. On demande des compétences de design, par exemple, des compétences, et là, c'est des compétences de design 3D, c'est des compétences de design de projet. On utilise les méthodes UML, par exemple, pour définir les besoins. Alors, c'est les besoins internes, les besoins des clients, les besoins de la logistique, les besoins des commerciaux. Et puis, on design les produits, les petites boîtes, alors on leur donne des codes couleurs. Est-ce que je peux mettre d'autres produits sur ce produit-là ? Oui, bah, si c'est ce cas-là, bah, les produits sont en vert. Si je ne peux pas mettre d'autres produits dessus, ça s'appelle GRB. Si je ne peux pas gerber, dans ce cas-là, j'ai un autre code couleur, il devient rouge, et ainsi de suite. Et tout ça, on fait un projet complet qui ne coûte rien, sur lequel je n'ai pas donné mon accord, mais je n'ai pas à le donner, qui vient de la base et qui est fabriqué par des gens qui, toute la journée, sont sur des chariots élévateurs et qui poussent des boîtes dans des camions. Pas de management là-dedans. Je crois que le web alimente un changement de structure, pour paraphraser. C'est un premier exemple. D'autres exemples. On utilise Twitter dans l'entreprise. Alors Twitter, c'est une plateforme de microblogging, c'est-à-dire on peut envoyer des messages un à plusieurs. Vous connaissez tous le mail. Donc le mail, c'est de un à un, ou de un à un ou deux choisis. Et bien, Twitter, c'est de un à plusieurs non choisis. Et ceux qui sont abonnés à votre canal reçoivent l'information. C'est un peu la CIBI, hein, c'est ça. D'un côté, c'est le téléphone. Le mail représenterait le téléphone. Le Twitter, ce serait la CIBI. Donc on utilise Twitter. Et dans Twitter, on met des petits messages courts, 140 caractères. À quoi ça peut bien servir d'utiliser Twitter dans une entreprise ? Chez nous, ça permet de résoudre rapidement en équipe des problèmes. Alors, je m'explique. En production, d'ailleurs c'est à l'ordonnancement, il y a une jeune fille qui dit « Je suis en rupture d'une pièce particulière, donc tel client, tel client, tel client, tel client seront impactés. » Et il envoie ça sur Twitter. Et quelques minutes après, il y a quelqu'un des achats qui sait très bien qu'on peut remplacer tel produit par tel autre, qui dit non, tu n'en as pas besoin, tu peux prendre tel autre, je rectifie le code dans l'ERP, et les clients un tel, un tel, un tel, un tel ne seront pas bloqués. Résultat des courses, au lieu d'avoir 3 clients ou 4 clients mécontents et qu'on le livrera avec 2 semaines de retard, tout le monde est content et les clients ne sont pas bloqués. Ça a pris un peu moins d'une heure. Dans un monde classique, il est vraisemblable que on s'en serait même pas aperçu. Les clients auraient été bloqués et on n'aurait pas résolu le problème. Ça, c'est quasiment tous les jours. On a 10, 20, 30 ou 40 messages tous les jours aujourd'hui. Et dans le lot, il y a 2 ou 3 petits problèmes qui sont résolus tous les jours. Ça n'a l'air de rien, mais comme vous savez aussi bien que moi, une entreprise, c'est une somme de problèmes. Il n'y a pas jamais de gros problèmes dans une entreprise, il n'y a que des tout petits problèmes. Mais il y en a beaucoup. Donc quand ils sont résolus sans l'aide des pyramides hiérarchiques, ça va beaucoup plus vite. Un autre exemple. Il y a à peu près un an, on a décidé de dématérialiser l'ensemble de la documentation technique. Bon, c'est pas grand-chose, 200 ou 250 fiches techniques, tout compris. Évidemment, jamais à jour. Évidemment, on en pilonne la moitié tous les ans parce qu'elle n'est pas à jour. On nous en demande et on n'en a jamais assez. Et puis, on en jette toujours la moitié. Donc, on a décidé de ne plus imprimer rien du tout, quasiment du jour au lendemain. Donc, on est passé, en fait, de 250 documents imprimés à 2500 documents non imprimés, facteur 10. Qu'est-ce qu'on met ? On met des fiches techniques, des catalogues, des vidéos, des interviews, des wikis, des facs, ainsi de suite. Et là, il y a un phénomène qu'on n'attendait absolument pas, c'est que le téléphone s'est arrêté de sonner. Non pas que nos clients arrêtaient de nous passer des commandes, bien que c'est peut-être un peu concomitant, mais en fait, ils étaient devenus autonomes. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus besoin de nous pour répondre à la question technique. Ils pouvaient le trouver directement dans les bases de connaissances qu'on leur avait ouvertes. Évidemment, on l'a ouvert à tout le monde, à nos clients et à nos non-clients. Nos non-clients, ils sont vraisemblablement des milliers de fois plus nombreux que nos clients. Et on commence à voir revenir du trafic chez nous. Je vais donner deux ou trois chiffres. En 2008, l'ensemble de nos sites ont été vus 850 000 fois, 850 000 pages vues. Un an plus tard, on a 1 300 000 pages vues. Et en rythme annuel, on est à plus de 2 millions de pages vues. Donc en fait, notre trafic sur Internet, en rythme annuel, il est multiplié par deux. On laissait à disposition sur Internet des documents en téléchargement. En gros, c'est des documents pour fabriquer des cahiers des charges. 5 000 téléchargements en 2008, 35 000 téléchargements en 2009. J'ai bon espoir qu'on retrouve ces documents dans les appels d'offres dans les semaines qui viennent maintenant. Des anecdotes comme celle-ci, il nous en arrive tous les jours. Finalement, chaque outil du web est pour nous une occasion, en tout cas de faire en sorte que les gens qui n'avaient pas la parole jusqu'ici puissent s'exprimer et apportent de la valeur à l'entreprise. Évidemment, il y a des risques. Il y a des risques de leadership, il y a des risques de fonctionnement de l'entreprise, ou de dysfonctionnement, il y a des risques de perturbation de la stratégie, mais je crois que le jeu en vaut la chandelle. L'expérience web qu'on est en train de mener chez nous, elle est très très liée à l'approche système, je crois. Sans un fonctionnement clair, avec des processus clairs, compris, exécutés, je crois qu'on ne peut pas donner trop de liberté aux uns et aux autres, sinon on a un risque trop important de dysfonctionnement. Je ne vous cache pas qu'il est quand même nécessaire d'amener beaucoup de volonté et beaucoup de moyens pour transformer rapidement une entreprise. Le web 2.0, effectivement, c'est gratuit, mais véhiculer le web 2.0, ça coûte de l'argent. Je voulais en fait vous laisser sur cette dernière idée. Rappelons-nous de Sébastien. S'agit-il de souffrir de sa condition, de souffrir de ses croyances limitantes, ou de s'ouvrir à des nouvelles perspectives? Eh bien, Sébastien, lui, il a répondu à ça. Et ça lui a pris à peine quelques semaines. Et il a décidé de s'ouvrir. Un grand bien lui en a pris. Ce soir, j'espère qu'en 20 minutes, 25 minutes, je vous aurai permis de vous glisser dans la peau des révolutionnaires du web. Merci.